Silence.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers, 98.4 FM, www.re2m.com. Et c'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien. J'espère que tu vas bien après toutes ces catastrophes.
Eh oui, ça va.
Qui t'ont suivi puisqu'on en avait parlé à nos auditeurs. Les inondations, ça va? Tu t'en es sorti?
Oui, ça va. Ça va. Bon. Ça a été compliqué, mais ça va. On est sur le mieux, on va dire.
Bon.
Et merci pour votre soutien.
Bon, c'est normal. Puis j'espère que les auditeurs à qui ça c'est peut-être arrivé, j'espère qu'ils sont sortis aussi, parce qu'on a beaucoup pensé à eux sur Radio Entre deux Mers, c'est clair. Hein. Toi et aussi les auditeurs à qui ça a pu arriver. Donc, bonjour chers auditeurs aussi, merci de nous recevoir chez vous, voilà, pour la chronique cinéma. Mais avant de parler des films qui peuvent vous intéresser, je voulais dire quelques mots sur un grand scénariste, qui vient de nous quitter, Jean-Claude Carrière. Il est décédé le 8 février, là, de cette année, hein, 21. Il avait 89 ans. Et voilà, et sa fille Iris a dit au journaliste qui s'était endormi, enfin, dans son sommeil. Il s'est éteint dans son sommeil parce qu'il n'avait aucune maladie. Voilà ce qu'elle a dit. Et bien, douce mort pour cet excellent scénariste. Il était romancier, essayiste, dramaturge, conteur, traducteur, acteur, parolier. Et entre 1957 et 2021. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais arrêté. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Il a vraiment, c'est un passionné, ce monsieur. Un monsieur discret, très discret sur lui, sur sa vie privée, mais un passionné, en fait, par tout ce qu'il faisait. On lui doit quand même à peu près 80 livres, à peu près, comme romancier.
Ce n'est pas rien.
Et on lui doit, pour le cinéma et la télévision, une centaine de scénarios. C'est assez extraordinaire. Alors, il était l'auteur attitré de Luis Buñuel, hein, qui est un qu'on connaît quand même, hein, grand réalisateur espagnol, qui lui est décédé en 1983. Et puis il était l'auteur attitré de Philippe Garrel également. Alors Philippe Garrel, c'est la famille des artistes, ça. C'est le père de Louis Garrel, par exemple, et Esther Garrel, qui sont des acteurs. Louis Garrel est un réalisateur également. Voilà. Il était le fils de Philippe Garrel, c'était le fils de Maurice Garrel, qui est un grand acteur qu'on connaît très bien, qui est parti en 2011. Et puis, Jean-Claude Carrière était également l'auteur attitré de Volker Schlöndorff, qui est un cinéaste allemand, voilà, et avec qui il a beaucoup travaillé aussi. Un grand cinéaste allemand, hein, qui est très très populaire chez lui en Allemagne. Voilà, donc on lui connaît, on sait que sa dernière épouse, en fait il en a eu trois, c'est ça, sa dernière épouse, c'est Nahal Tajadod, qui est une femme de lettres iranienne, d'expression française. Avec sa première épouse, il a eu deux filles. Mmh. Sa première épouse, c'était une comédienne, elle était peintre également, Augusta Bouy. Il a donc eu Iris Carrière. Voilà, et Chiara Carrière également, qu'il a eu avec sa, avec Nahal Tajadod. Elle a 18 ans aujourd'hui d'ailleurs. Iris Carrière, elle, elle a, elle est productrice de cinéma d'ailleurs. Voilà. Et bon, donc c'était quand même, voilà, c'est un monsieur très, comment dire, très, très célèbre et en même temps tellement discret. Pardon, qu'on parlait rarement de lui, en fait, par rapport à ce qu'il était ou par rapport à sa vie privée. Par contre, il laisse des, il a écrit des scénarios extraordinaires parce qu'il a, il a travaillé avec les plus grands quand même. Hein. Ben, c'est lui, par exemple, pour La Piscine de Jean Deray, qui est sorti en 69 avec Alain Delon et Romy Schneider. Voilà, il a, il fait partie, enfin, il a scénarisé Belle de jour également en 1967, un film de Louise Buñuel avec Catherine Deneuve, Michel Piccoli et Jean Sorel. Et puis, en 72, il a scénarisé Le charme discret de la bourgeoisie. C'était encore un Louise Buñuel, ça, avec Stéphane Audran, Delphine Seyrig, enfin, des castings extraordinaires. Il a scénarisé en 1974 Le fantôme de la liberté de Louise Buñuel. Il a scénarisé 1977 Cet obscur objet du désir de Louise Buñuel. Le tambour également en 1979 de Volker Schlondorf. Le tambour, c'est un film qui a vraiment étonné et qui a très bien marché d'ailleurs à l'époque. Il y avait Mario Edorf, il y avait Andrea Ferréol, David Brennant. On se souvient ce petit garçon dans Le tambour là, David Brennant. En fait, c'est un acteur. C'est un acteur de petite taille, hein, voilà, et qui joue le rôle d'un enfant là dans ce film extraordinaire, Le tambour. Il a scénarisé en 1986 Max, mon amour, de Nagisa Oshima, qui est un réalisateur franco-américain. Alors Max, c'était l'histoire d'un chimpanzé, et Charlotte Rampling, la délicieuse Charlotte Rampling, tombait amoureuse de ce chimpanzé qu'elle appelait Max. Et oui, on avait Fabrice Luchini d'ailleurs dans ce film, Max, mon amour. Et puis il a scénarisé, ah mais oui, en 1990, Cyrano de Bergerac, excusez-moi, de Jean-Paul Rapneau avec Gérard Depardieu. On l'a beaucoup aimé, ce Cyrano de Bergerac, là. Et puis, en 1990, il a scénarisé « Milou en mai » de Louis Malle, avec Michel Piccoli, Miu Miu, Michel Duchaussois, Martine Gauthier. Bref, vraiment, avec des castings toujours superbes. Et puis, en 2018, il a scénarisé « L'homme fidèle » de Louis Garrel, dont je parlais tout à l'heure, d'ailleurs. Le fils de Philippe Garrel. Alors, avec Lily Rose Depp, c'est la première fois qu'on la voyait vraiment, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp. Il y avait Laetitia Casta aussi dans L'homme fidèle. Enfin, il y a Laetitia Casta. Et puis, il a scénarisé aussi en 2018 At Eternity's Gate de Julianne Schnabel. J'étais encore restée en Espagne, moi. C'est Julianne Schnabel, qui est un cinéaste américain et un peintre néo-expressionniste américain. Bah oui, il est américain, c'est ce que je viens de dire, oui. C'est le film est formidable d'ailleurs, hein. At Eternity's Gate, il s'inspire des lettres du peintre Vincent van Gogh. Alors Vincent van Gogh est joué d'ailleurs par Willem Dafoe, grand acteur. C'est pareil, là, il y a un joli casting et le scénario est formidable. D'ailleurs, tiens, pour la petite histoire, Willem Dafoe dans ce film là, At Eternity's Gate, il est doublé par Patrick Chenet. En français, la voix française. D'accord. De Patrick Chenet, qu'on connaît bien, qui est un de nos grands acteurs français. Et son premier film, en fait, c'était qu'il a scénarisé, Jean-Paul Carrière, c'était en 1900... Jean-Claude, pardon, qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Jean-Claude Carrière, excusez-moi, hein, j'ai une petite angine, j'ai un petit peu de fièvre. Je vais peut-être un petit peu délirer de temps en temps. Damien, je te le dis, c'est mieux comme ça que tu le saches. Donc, son premier film, c'est en 1964, c'est Le journal d'une femme de chambre, de Louise Buñuel. Alors celui-là, il est formidable, hein, si vous le trouvez, ou si vous vraiment... c'est pareil, c'est un casting, Jeanne Moreau, Michel Piccoli. Il y a Jean-Claude Carrière, d'ailleurs, dans Le journal des femmes de chambre, qui joue le rôle d'un curé. Et oui, il y a Georges Géré, il y a Daniel Hivernel, bref, que du beau linge. Alors, voilà, J'en ai pris quelques-uns comme ça, hein, parce que sur les 100, je pouvais pas vous parler de la centaine de scénarios. J'ai essayé de prendre les plus connus, ceux qui me semblent vraiment quasiment, je sais pas, c'est presque des petits chefs-d'œuvre à chaque fois, là. En tout cas, les films que je viens de nommer. Et alors, Jean-Claude Carrière disait, le rire est toujours utile. Et il racontait que Louise Buñuel lui faisait de ses blagues qui le faisaient beaucoup rire. Voilà. Donc c'est bien. Bien. Et voilà, bien, merci Monsieur Carrière pour cet hommage. Ces beaux scénarios, pour ce beau cinéma.
Voilà, donc l'hommage à Jean-Claude Carrière qui nous a quittés le 8 février dernier. Oui, à l'âge de 89 ans. Et maintenant, Anne, nous allons présenter des films. Donc, comme vous savez, amis auditeurs, les cinémas sont toujours fermés, mais il y a une quantité de films sortis depuis de nombreuses années. Et Anne nous présente toutes les semaines une sélection de 7 films à voir ou à revoir. Et aujourd'hui, tu vas commencer avec un film de 1945 qui s'appelle Le Cavalier Noir.
Mais en fait, aujourd'hui, c'est une. La semaine dernière, c'était une série de péplum, films d'action, des très très beaux films. Et cette semaine, j'ai choisi des films de KPDP. Voilà. Je me suis dit que là, en ce moment, il fallait vraiment se détendre. On continue à se détendre. La semaine dernière, c'était dans la Rome antique. Et cette fois-là, on est beaucoup plus près. On est chez Louis XIII. Hein, c'est la plupart se situent à peu près sous Louis XIII. Hein, tous ces films de KPDP. Alors j'en ai retenu 7 effectivement que je trouve très très bons, que je trouve très agréables et qu'on trouve aussi qu'on peut louer en VOD. On les trouve facilement, n'est-ce pas, Damien?
Oui, très très facilement.
Il y a pas de souci pour les trouver. Alors oui, on commence, comme tu as dit, par Le Cavalier Noir, oui, qui est sorti en 1945. Alors Le Cavalier Noir, je sais pas, on peut peut-être commencer par le synopsis après tout, parce que comme il est très ancien et qu'il n'est pas très connu, alors que moi je le trouve très bon, c'est bien dommage. Alors c'est pendant le 18e siècle, c'est ce que je disais, hein, dans les Flandres, un jeune seigneur à la voix d'or, devenu contrebandier après avoir été dépossédé de ses biens et surnommé par les douaniers le Cavalier Noir. Ce jeune seigneur s'amuse, sous un nom d'emprunt, à berner Monsieur de Saint-Brissac afin de récupérer ses biens. Saint-Brissac, c'est le voleur, en fait. Hein, c'est celui qui l'a dépossédé, qui a beaucoup de pouvoir auprès du roi et qui l'a dépossédé. Alors, ce film, le tournage de ce film a commencé le 15 août 1944. Il est considéré comme le dernier film de l'occupation, ou, mieux encore, le premier film de la libération. Ça, je trouvais que c'était assez important quand même d'en parler. Alors, oui, donc Le Cavalier Noir, alors qui l'a réalisé? C'est Gilles Grangier. Ouh, Gilles Grangier, on le connaît, oh là là, un grand réalisateur, scénariste, dialoguiste français, on en a déjà parlé dans cette émission pour certains films. Hein. Donc lui, il est décédé à 84 ans, en 1996. Et il a réalisé, en fait, tous ses films entre 1945 et 1982. Le Cavalier Noir, c'est un film français. Il est adapté d'un roman d'une écrivaine britannique qui s'appelle Audrey Eskin Lindop. C'est une dame, elle était des années 20, elle était née en 1920, c'est ça, et elle est partie en 1986. C'est adapté de son roman, c'est un très joli roman d'aventure. Alors quoi, Gilles Grangier, on lui doit quoi? On lui doit en 1949, Jo la romance avec Georges Guettari et Ginette Leclerc. En 1955, Gaswell avec Jean Gabin et Jeanne Moreau. Et puis en 55 également, Le printemps, l'automne et l'amour avec Fernandel et Nicole Berger, dont j'ai parlé d'ailleurs sur Radio Entre-deux-Mers, je crois que c'était le mercredi 3 février. On a parlé de Fernandel parce que c'était les 50 ans de sa disparition. Et donc, il y avait ce film que j'avais mis de côté parce qu'il est très beau. et qui était justement de Gilles Grangier. Et puis en 51, on lui doit le plus joli péché du monde. Alors le plus joli péché du monde, ça s'appelle Dany Robin. Dany Robin, grande actrice des années 50-70. Il y avait Georges Marchal aussi dans ce film. D'ailleurs, ils ont été mariés tous les deux. Dany Robin et Georges Marchal, dans la vraie vie, ils ont été mariés entre 1951 et 1969. Voilà. Et en 56, on lui doit Le sang à la tête avec Jean Gabin et René Fort. Et puis en 71, j'avais noté aussi Un cave. C'est très très chouette polar avec Claude Brasseur, Marthe Keller. Voilà, Claude Brasseur, le regretté Claude Brasseur qui est décédé en décembre 2020. On lui avait fait un petit hommage sur Radio Entre deux Mers. Mmh. Voilà, eh oui. Donc c'était, alors, les acteurs du Cavalier Noir, c'est Georges Guettari, le fameux cavalier à la voix d'or, c'est lui. Parce que Georges Guettari, c'est un acteur, mais un chanteur également, avec une très très belle voix. C'était quelqu'un qui était très renommé à l'époque, Georges Guettari, hein, dans ces années-là justement, les années 40, 50. Ah oui, très. Très, c'est vraiment c'est un acteur, un chanteur surtout, très très populaire, très reconnu. Et on a également dans ce film Mila Parelli, qui était une actrice de l'époque aussi extrêmement célèbre. On a Jean Tissier, on a Simone Valère, bon, ce sont des noms qu'on connaît quand même, qui sont donc dans Le Cavalier Noir, qui dure 1h10, hein, ce film. Voilà, Le Cavalier Noir. Et ensuite, alors...
Ensuite, on va continuer avec un film de 1959 qui s'appelle Le Bossu.
Oui, c'est ça. Il a été tourné en 59, mais finalement, je crois qu'il n'est sorti en France, enfin, on l'a vu en France dans le cinéma, en 1960. 59-60. Enfin là, bon, c'est pas très important. C'est un film donc qui dure 1h40. Et lui, Le Bossu, c'est un film français-italien, franco-italien. Il est adapté du roman de Paul Féval fils. D'ailleurs, il était paru à l'époque, c'était de Paul Féval, c'est 1860-1933, il était paru en 1915, je crois, quelque chose comme ça. Il est paru sous forme de feuilleton dans un journal. Ça se faisait énormément à cette époque-là, les romans qui passaient sous forme de feuilleton. Alors Le Bossu est réalisé par André Unebel. Alors André Unebel, c'est un réalisateur, scénariste, producteur français. Alors lui, il a réalisé tous ses films entre 1948 et 1978. Il nous a quittés à 89 ans en 1985, André Unebel. Et il a fait des films, qui détendent, qui font du bien, qui sont de très bons films avec des castings très 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 très, très chouettes aussi. Par exemple, en 1950, Méfiez-vous des blondes, avec Raymond Roux, Martine Carole, Yves Vincent. En 1952, on lui doit Massacre en dentelle, avec Raymond Rouleau encore, qui était un acteur très très célèbre de l'époque, Anne Vernon, Bernard Lajarise. En 1953, on lui doit Les Trois Mousquetaires avec Georges Marchal, dont on a parlé pour Le Cavalier Noir, Bourville, eh oui, Gino Servi, qui est le maire dans les films de Don Camillo, n'est-ce pas? C'est lui, Pépone. Eh bien là, on le retrouve dans le costume de Porthos. Et puis il y avait Jacques François également, ouais, qu'on connaît bien. En 1961, on lui doit Le Miracle des Loups avec Jean Marais, Rosanna Schiaffino. Très très belle actrice italienne, Roger Hanin. Il y avait Jean-Louis Barrault, très très beau film, Le Miracle des Loups. 1964, c'était Fantomas. Les fameux Fantomas. Alors là, on a eu Fantomas en 65, Fantomas se déchaîne en 66, Fantomas contre Scotland Yard ensuite. Et c'est vraiment, les Fantomas, c'est pareil, il faut regarder, mais chérie, il faut regarder les trois en même temps, en fait, à la suite. Dommage de les séparer, en fait, parce que l'histoire se continue à chaque fois. Voilà. Alors il y avait Jean Marais, Mylène de Mongeau, Louis de Funès, hilarant commissaire, Jacques Dinham aussi, l'inspecteur qui est un acteur assez, assez extraordinaire, Jacques Dinham. Ça a toujours été un second rôle, mais quand il est là, et on le remarque. Eh oui. Voilà, et là, on est dans le Bossu, donc, alors, pour, dans le Bossu, alors le Bossu, c'est quoi d'abord? Oh, bah, on connaît un peu, mais enfin, quand même. C'est, par exemple, alors, bon, je sais pas, dans le secret, ça commence comme ça, l'histoire, tout est secret dans cette histoire, d'ailleurs, le Bossu. Dans le secret, le duc de Nevers a épousé Isabelle de Caylus, qui lui a donné une fille, Aurore. Son cousin, Philippe de Gonzague, jaloux, organise un odieux complot. Mortellement blessé, Nevers confie Aurore à Henri de Lagardère, un gentilhomme chevaleresque qui fait serment de le venger et de prendre soin de l'enfant. L'enfant Aurore. Les années passent. Gonzague a épousé Isabelle, la mère d'Aurore, hein, l'ex-femme de Nevers, et s'apprête à obtenir la succession de Nevers. Parce que effectivement, Philippe de Gonzague, ce qu'il voulait, c'était surtout la fortune du duc de Nevers, qui était immense. C'est alors que réapparaît Lagardère sous les traits d'un mystérieux bossu.
D'accord.
Et où? Eh bien oui, oh, moi je trouve que c'est une très jolie histoire en fait. Il est, voilà, le chevalier Henri de Lagardère, mais c'est Jean Marais.
Et oui.
Jean Marais, alors là, on va voir que dans les films, dans tous les films que j'ai mis de côté, c'est Jean Marais quasiment qui a toujours le rôle principal. Parce que, ben pourquoi? Ben parce que Jean Marais, d'abord c'était l'acteur, à l'époque c'était l'acteur, le grand acteur. C'était un acteur d'action, beaucoup. Dans les films d'action, Jean Marais d'abord, parce que à l'époque, c'était beaucoup plus rare que maintenant. Il mesurait 1m80. Ce qui était assez rare à l'époque, hein, beaucoup plus rare que maintenant, où effectivement, apparemment, la race humaine a grandi. Oui, c'est très curieux. Mais c'est vrai qu'il était donc athlétique quand même, hein, Jean Marais. Donc il correspondait tout à fait à ce genre de film. Jean Marais, je rappelle, hein, acteur de théâtre et de cinéma, metteur en scène, écrivain, peintre, sculpteur, potier aussi, la poterie, mais oui. Et en fait, pour ces films de cap et d'épée dans lequel on va le retrouver là, il réalisait la plupart de ses cascades. Alors là, ça fait penser à quelqu'un. Les cascades, ça te fait penser à quel acteur, toi, Damien? Quelqu'un qui réalise ses cascades lui-même?
Jean-Paul Belmondo.
Parfait, c'est exactement ça. On a très peu d'exemples en France d'acteurs qui réalisent leurs cascades eux-mêmes. Eh bien oui, ça rappelle tout à fait, oui, Jean-Paul Belmondo, qui a également réalisé la plupart de ses cascades. Alors évidemment, bon, c'était le héros, bon, il avait un physique très avenant, Jean Marais. C'était un bel homme, on peut le dire. Et donc, il avait tout à fait les traits qu'il fallait pour ces rôles-là, où il était toujours effectivement le héros chevaleresque qui défend la veuve et l'orphelin. Hein. C'est quasiment ça, quoi. Hein. Donc, dans le Bossu, alors, on a donc Jean Marais, on a François Chaumette, qui a le rôle du méchant, d'ailleurs, Gonzague. On a Edmond Beauchamp, on a Bourville, ah, bah oui, bien sûr. Alors, on verra que Bourville a suivi très, très souvent Jean Marais dans les films de cap et d'épée. Voilà, il est très souvent à côté de lui dans ses films. On a Paulette Dubost, on a Jean Le Poulain. Alexandre Rignot, Hubert Noël. Hubert Noël, d'ailleurs, dans ce film, il a le rôle de Philippe de Nevers. On le voit très peu. C'est un acteur qui n'est pas très connu et qui pourtant a tourné dans pas mal de films, dans des rôles secondaires. Et là, voilà. C'est dommage parce que c'était un bon acteur. Dommage qu'il n'ait pas fait plus de choses, voilà, et qu'on ne se souvienne pas trop de lui. Voilà, le Bossu, André Unebelle. Voilà. Très chouette, c'est très, très, très joli. Moi, c'est mon Bossu préféré, en fait, parce que la plupart des films de cap et d'épée dont je vous parle ont été réalisés souvent. Hein. Il n'y a pas un seul Bossu, il n'y a pas un seul, là, on va passer au Capitan, etc. Un Cavalier Noir, c'est pareil, il n'y en a pas qu'un. Mais j'ai choisi ceux que je trouve qui me plaisent le plus, quoi. Je trouve excellent, tout à fait, dans le genre action, aventure, romance, parce qu'il y a souvent une histoire d'amour. Voilà, c'est pour ça que c'est ceux que j'ai choisis, moi. Voilà. Alors c'est en fait ils sont on va s'apercevoir que ils sont cantonnés entre les années 1959 et 1963. C'est les années où tous ces films de KPDP sont sortis avec Jean Marais. Voilà, c'était quasiment, il y en avait presque un par an. Et ça marchait très très bien. Hein. Voilà pour le bossu.
Très bien. Ensuite, on va continuer avec le capitaine.
Ah oui, le capitaine. Ah ben le capitaine, alors c'est pareil, hein, beau film de KPDP. Alors le capitaine, lui, c'est les années 60, aussi, hein, 1960. Donc on a d'une part, on a donc Jean Marais. Ah, allez, on a Bourvil, je viens de dire hein, que Bourvil l'accompagnait dans tous ses films de KPDP. Et Bourvil, c'est très curieux parce que dans ces films, justement, Bourvil, c'est la note d'humour, en fait, du film, des films de KPDP. Il a toujours plein d'humour, il est un peu trouillard, il tombe amoureux facilement, il a des répliques très assez amusantes, enfin voilà. C'est la note d'humour des films de KPDP, Bourvil. Notre regretté Bourvil.
Eh oui,
pareil, hein. Quelqu'un qu'on regrette beaucoup aussi comme acteur. Alors c'est quoi l'histoire du capitaine? Ben ça se passe en 1616. Là, on retourne un peu en arrière. Hein. Je parlais de Louis XIII tout à l'heure, mais là, on retourne en arrière puisqu'on revient chez Marie de Médicis, qui est régente du royaume de France et qui nomme Concino Concini Premier ministre. Ah, mais ce dernier conspire pour éliminer le souverain tout juste adolescent. Pour arriver à ses fins, il favorise l'insécurité générale dans le royaume. Refusant ce climat hostile, le chevalier François de Crémazingue de Capestan se rend au conseil de la province, où les nobles se sont rassemblés pour envisager des actions contre le Premier ministre. François de Crémazingue de Capestan, qu'on appelle justement le capitaine. Et oui, et c'est un petit qui est adapté du célèbre roman de Michel Zévaco. Oui, Michel Zévaco, ce roman d'ailleurs apparu également en feuilleton, hein, comme j'en parlais tout à l'heure, pour Le Bossu de Paul Féval. Et là, il est paru en 1907, à peu près, là, hein, sous forme de feuilleton. C'était quand même assez extraordinaire, cette histoire de feuilleton. Donc c'est un classique hein, du film de KPDP. Et en fait, Marie de Médicis, c'est la mère de Louis XIII. Donc on est allé un peu en arrière parce que là, Louis XIII est très très jeune, il est tout juste adolescent. Mais c'est bien toujours cette période. C'est Jean Marais, donc, c'est le jeune noble qui arrive à Paris avec son fidèle compagnon, le baladin Bourvil. Et oui, à la recherche d'une mystérieuse et belle jeune fille qui lui a sauvé la vie. Et c'est Elsa Martinelli qui s'y colle. Ah, charmante Elsa Martinelli, très très bonne actrice. Et du coup, le capitaine se trouve mêlé aux intrigues de la cour et les duels et les cascades spectaculaires se succèdent pour défendre le très jeune roi. C'est pour ça, alors oui, alors on a donc, on l'a bien compris, on a Jean Marais, le capitaine, c'est ça, oui. On a donc Jean Marais, on a Bourvil, Elsa Martinelli, voilà, dans les rôles principaux. Mais il y a tellement, tellement de monde dans ces films, en fait. Il y a une multitude de personnes là, qui sont là, qui s'agitent en costume. Il y a des duels, il y a beaucoup de monde, hein, il y a énormément de monde. C'est toujours très, très beau à regarder, en fait. Vraiment. C'est, voilà, le capitaine. Eh oui. Ensuite, j'ai pas nommé quand même, il y a Pierrette Bruneau aussi. Je la nomme parce qu'en fait, Pierrette Bruneau et Bourvil ont travaillé aussi ensemble. En fait, ils ont tourné tous les deux dans des comédies musicales, et ils faisaient le tour de France avec leurs comédies musicales. Pierrette Bruneau et Bourvil. Ouais. Pierrette Bruneau qui était une jeune actrice très célèbre à l'époque. Ah oui, il fallait la nommer quand même, Pierrette Bruneau. Et puis il y avait dans ce film aussi, ben oui quand même, ne pas l'oublier, Pierre Piral. Pierre Piral, comment on disait ? Il disait, comment vous appelle-t-on, monsieur ? Et il a répondu, appelez-moi le petit homme. Voilà, Pierre Piral, c'était le petit homme. Et puis il y avait Jacqueline Porel aussi dans ce film, qui joue d'ailleurs le rôle de l'épouse de Concino Concini. Et elle est aussi désagréable que son époux d'ailleurs, dans ce film. Voilà. Alors, dans le bossu, je l'ai dit, hein, j'ai donné déjà le nom des acteurs, voilà, dans le capitan, pardon, parce que là, on est au capitan, voilà, donc, ben oui, donc j'ai toujours Jean Marais, le capitan, magnifique, ah oui, magnifique, absolument, il y a beaucoup de passages amusants dans ce film, hein, dans le capitan, grâce à Bourvil, qui fait rire d'ailleurs le capitan. C'est-à-dire Bourvil fait rire Jean Marais, et plutôt, voilà, et le baladin fait rire le capitaine dans ce film. Très amusant, il y a des bons passages, très jolis. Ensuite,
toujours dans la lignée, on va continuer avec le Capitaine Fracasse, sorti en 1961.
Oui, le Capitaine Fracasse. Bah oui, alors c'est toujours Jean Marais, bien sûr. Hein. Eh ben oui, c'est lui, il n'y a pas de doute. Hein. Alors c'est le Capitaine Fracasse, c'est adapté du roman de Théophile Gautier. Alors ce roman est paru en 1863. Enfin, Théophile Gautier, on le connaît quand même. Hein, là, c'est pas. Voilà. Et c'est réalisé par Pierre Gaspard Huy. Alors Pierre Gaspard Huy, c'est un réalisateur scénariste français, c'est un écrivain également. Et lui, ben, il est décédé en 2017, c'est vrai, il avait 100 ans. Et ce monsieur, Pierre Gaspard Huy, était né en 1917 à Libourne. Eh oui,
d'accord.
Pas loin de nous, ça. Il a été, et d'ailleurs pendant une vingtaine d'années, il a été l'époux de Claudine Auger. Claudine Auger, grande actrice, hein. Bah oui, qu'on connaît, qui a été la première dauphine de Miss Monde en 1958, elle avait 17 ans. Et puis à 24 ans, elle était la première James Bond française. Ça s'appelait Opération Tonnerre, avec Sean Connery, et c'était Terence Young qui avait réalisé ce James Bond-là. Ben, ça a été la première jeune blonde française, Claudine Auger. Malheureusement, elle est décédée en 2019 à 78 ans d'une longue maladie. C'est pour ça qu'on ne la voyait plus depuis très très longtemps, en fait, sur nos écrans. Alors, Pierre Gaspard Huy, là, le réalisateur, lui, ben, ses films se situent entre 1952 et 1966 à peu près. Donc tu as dit, hein, 1961, le Capitaine Fracasse, ça dure 1h45, c'est un film franco-italien. Alors on rappelle, enfin pour donner une petite idée, pour ceux qui le connaissent moins, Pierre Gaspard Huy a réalisé j'en ai mis 3-4, en 1955, Sophie et le crime, avec Marina Vladi, Jean Gaven, Peter Van Heck. Et puis c'était un polar, hein. En 55, une comédie Paris Canaille avec Danny Robin, Daniel Gélin, Darry Cole. En 56, La mariée est trop belle. C'est une comédie, il y a de la romance aussi avec Micheline Prel. Brigitte Bardot qui a 22 ans dans ce film, dans La mariée est trop belle, toute mignonne. On a Louis Jourdan aussi, oh là là, le beau Louis Jourdan. En 1958, il nous a réalisé Christine. Alors Christine, c'est un drame romancé avec Romy Schneider, Alain Delon, Micheline Prel et Jean-Claude Brialy. Et bon, ça finit un peu triste, mais c'est un très beau film. Et en 63, j'ai mis de côté aussi Scheherazade. Alors là, c'est un film d'aventure avec Anna Karina, Gérard Barret, Giuliano Gemma, qui est un acteur italien qui a disparu il n'y a pas très longtemps, je crois d'ailleurs, l'année dernière ou il y a 2 ans. Très très bon acteur qui était très populaire chez lui. Giuliano Gemma. Voilà. Donc, et là, alors qu'est-ce qu'on a dans cette histoire ? Ben d'abord, c'est quoi cette histoire ? C'est un chevalier qui bondit, il se bat à l'épée pour l'honneur et il se cache sous le masque du Capitaine Fracasse. Et il sauve les demoiselles en péril. Et oui, alors je vais donner les noms parce que là il y a la demoiselle en péril, c'est Geneviève Grade quand même. On la connaît Geneviève Grade. Et oui, alors on a toujours Bourvil aussi, hein. On a Gérard Barret. Et oui, qui commençait à être connu d'ailleurs, qui commençait à être célèbre en France. On a Philippe Noiret, Louis de Funès, Jean Rochefort, Riccardo Garonne, qui est un acteur italien dans Le Capitaine Fracasse. Donc c'est adapté d'un roman de Théophile Gautier. Donc c'est le personnage, c'était un des personnages préférés d'ailleurs de Théophile Gautier. Le capitaine Fracasse, il aimait beaucoup ce personnage. Ça se passe donc dans la France du XVIIe siècle, hein. Et Jean Marais, donc, c'est le baron de Sigognac. Il autorise une troupe de comédiens à venir passer la nuit dans son château. Fatigué de son existence, il décide de voyager en leur compagnie jusqu'à Paris. Quand l'un des membres de la troupe, le capitaine Fracasse, meurt, le baron se propose pour prendre sa place. Et voilà comment le baron de Sigognac, c'est Jean Marais, devient le capitaine Fracasse. Capitaine Fracasse sur les planches, puisqu'il s'agit d'une troupe de comédiens dont il va faire partie un moment et jouer le rôle du comédien qui vient de mourir, le capitaine Fracasse. C'est une très 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 jolie histoire, mais vraiment, vraiment. Et oui, on a Bernard Deran aussi dans le film, la comédie française, Bernard Deran, Sophie Grimaldi. Enfin, c'est très très beau casting encore là. Et puis la romance, l'histoire d'amour aussi, et ben oui, bien sûr. Mais Jean Marais est toujours amoureux d'ailleurs, il tombe amoureux dans tous les films de Cap et d'Épée. Hein. Il y a toujours une demoiselle qui est là, qu'il va sauver, et ils vont s'aimer, bien entendu. Le capitaine Fracasse.
Ensuite, on va continuer avec Le Masque de Fer, ce film sorti en 1962.
Et pas... Ah oui, alors, Le Masque de Fer. Ah oui. Bon, mais ça, enfin, l'histoire du Masque de Fer est connue quand même. Mais moi, c'est celui que je préfère, celui-là. Je l'ai mis de côté parce que c'est mon préféré de tous les masques de fer qui ont été réalisés. Et Dieu sait qu'il y en a eu, je crois, presque une dizaine, en fait, hein. Masque de fer. Ah ben oui, ça inspire beaucoup les réalisateurs, le masque de fer. Alors c'est adapté du roman d'Alexandre Dumas fils qui a été publié en 1849, le masque de fer. Il dure 1h23. Alors c'est un film franco-italien aussi, également, comme le précédent. Et c'est un film d'Henri Decoing, réalisateur, scénariste, adaptateur français, qui lui est décédé en 69. Il avait 79 ans, Henri Decoing. Alors, Henri Decoing lui doit en 1935 le Domino Vert avec Daniel Darieux et Charles Vanel. Alors, Daniel Darieux avait 18 ans à l'époque. Elle a commencé le cinéma très tôt, Daniel Darieux. Très très tôt, je crois. Les premiers, c'était 16 ans, 17 ans. Là, elle en a 18 dans le Domino Vert. Et puis en 1936, il réalise Abus de confiance, toujours avec Daniel Darieux. Et oui, Georges Lannes, Charles Vanel. Charles Vanel qui était un acteur extrêmement célèbre à l'époque. Hein. Et puis entre 35 et 41, il a tourné presque, je crois, c'était 7 films avec Daniel Darieux. Et pour cause, ils sont mariés. Et oui, dans la vraie vie, Henri Decoing et Daniel Darieux ont été mariés entre 1935 et 1941. Il faisait tourner son épouse qui avait énormément de talent et je trouve qu'il avait parfaitement raison. N'est-ce pas, Damien ?
Oui. Tu es d'accord ? Tout à fait, oui.
Voilà. Alors il y a, oh oui, bah avec elle, alors il y a, bon, le Domino Vert, je l'ai dit, J'aime toutes les femmes en 1935, Abus de confiance, je l'ai dit, Mademoiselle ma mère en 1937, Retour à l'aube en 1940, Battement de cœur, Premier rendez-vous en 1941. Voilà les 7 films qu'il a tourné, qu'il a réalisé avec son épouse. Et puis, alors avec lui, avec Henri Decoing, on croise dans tous ses films, on croise des gens magnifiques, quoi, des acteurs, des actrices formidables. Par exemple, on croise Jules Berry, Fernand Ledoux, Suzy Prime, Yvonne Printemps, Pierre Fresnay, Bernard Blier, Albert Rémy, Blanchette Brunois, Michel Simon, Jenny Holt, Jean de Bucourt et j'en passe. Eh oui, on croise vraiment... Il a des castings en or, Henri de Coin, pour ses films. Des castings en or. Et puis ça, c'est les années 45, 46, 47, parce que dans les années 49, 60, 64, oui, c'est ça, à peu près. On croise des Louis Jouvet, des Madeleine Robinson, des Pierre Brasseur, des Arletty, Eric Van Stroheim, des Eddie Constantine, Paul Francoeur, Maurice René, Juliette Gréco, Liselotte Pulver, Jean-Marc Bory, Noël Roquevert, Micheline Dax, Jean-Paul Belmondo, Pierre Mondy, Claude Rich, Valérie Lagrange, Marie-Josée Natt, Paul Meurice, Annie Girardot, Jean Poiret. Jean Poiret, Michel Serrault, Francis Blanche, Denise Gray, etc., etc. Mais vraiment, vraiment, Henri de Coin, il ne pouvait pas faire de mauvais films avec des castings aussi extraordinaires. Et oui, et voilà. Alors là, le masque de fer, bon, bien qu'on connaisse, effectivement, on connaît l'histoire, mais quand même. Allez, ça se passe en 1659. Le jeune Louis XIV tombe gravement malade, mettant à mal les projets du cardinal Mazarin et l'avenir de la France. D'Artagnan se voit alors confier une nouvelle mission, retrouver le frère jumeau du roi, jadis emprisonné sur une île, afin de ne pas compromettre le couronnement. Ce jumeau a la particularité de porter un masque de fer sur son visage, afin que personne ne connaisse son identité. Mais quand D'Artagnan arrive à la forteresse, il découvre que le détenu s'est échappé avec l'aide de la ravissante fille du gouverneur de l'île. Donc c'est D'Artagnan qui est chargé de ramener à Paris le frère jumeau du roi Louis XIV. Il est prisonnier dans l'île Sainte-Marguerite, hein, qui était une forteresse terrible. Voilà, donc c'est un film de duel, aventure, arrestation, bagarre et rebondissement se succèdent. Et oui, les dialogues sont d'Henri Janson, quand même. Voilà. Et en fait, il a adapté, mais à partir des œuvres d'Alexandre Dumas et de Voltaire également. Ce qui nous fait un film de cap et d'épée de magnifique. Tout à fait. D'Henri de Coin, mm-hmm. Voilà. Vraiment magnifique. Eh oui.
Donc voilà pour le masque de fer. Et on va continuer toujours dans la même année avec un film qui s'appelle Les Mystères de Paris. Alors de quoi ce film ?
Sauf que Damien, je n'ai pas donné tous les acteurs là quand même. Il y avait Jean Marais, d'accord. Mais il y a Sylva Cossina aussi. Sylva Cossina qui était une actrice italienne qui est décédée à 60 ans, elle, en 1994. Oui, une longue maladie. Et puis on a Jean Rochefort, on a Philippe Lemaire, on a Claudine Auger, et oui, dont j'ai déjà parlé, n'est-ce pas, tout à l'heure, Claudine Auger. On a Jean-François Poron, on a Gisèle Pascal, Germaine Montero et Jean Davy dans les rôles principaux. De grands, grands, grands acteurs, voilà. Je ne pensais pas donner leur nom. Ah mince alors. Je ne sais pas d'ailleurs, quand j'ai parlé tout à l'heure du capitaine, est-ce que j'avais dit que c'était le réalisateur André Unebelle aussi ?
Oui, tout à fait.
Je ne sais pas si j'avais dit que c'était lui encore, parce qu'on parlait de lui pour le bossu et je ne sais pas si je l'ai nommé pour le capitaine. J'étais pas certaine, en tout cas, bon, c'est fait. Donc là, voilà, on va passer. Tu nous as dit alors, on passe à quoi ?
Les Mystères de Paris.
Ah oui, oh là là, Les Mystères de Paris. Alors c'est pareil ça, c'est très très chouette film de cap et d'épée. Tous ces films en fait sont classés hein, dans la catégorie cap et d'épée. Hein. C'est vraiment ça quoi. Et toujours avec Jean Marais comme je le disais, hein, bien sûr. Alors Les Mystères de Paris, tu nous as dit 1962, et oui, c'est un film français qui dure 1h40, d'André Unebelle justement, encore lui. Donc il a le bossu, il a le capitaine et il a les mystères de Paris. Ça s'est trouvé comme ça. Et oui, André Unebelle, dont j'ai parlé longuement tout à l'heure. Effectivement, alors là, on va pas repartir sur ce qu'a fait André Unebelle puisqu'on le sait. Mais là, par contre, on va quand même parler de cette histoire. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi cette histoire des mystères de Paris ? Ah oui, il faudrait quand même dire que c'est quand même adapté. Les mystères de Paris, c'est du roman populaire d'Eugène Sue. Donc ça a été publié aussi, d'ailleurs, le Mystère de Paris, sous forme de feuilleton, encore, de 1842 à 1843, sur deux années, feuilleton Les Mystères de Paris. Et vous savez, il faut savoir, mes chéris, que les feuilletons de l'époque étaient très lus. C'était des feuilletons dans les journaux, évidemment, mais très, très lus et très suivis. Quand on pense que là, ça a duré 2 ans quand même, un feuilleton de 2 ans, et ça faisait vendre les journaux, bien entendu. Et oui, à l'époque, pas de télévision, pas de radio, pas tout ça. Et oui, on n'y était pas, Damien, je suis désolée, on n'y était pas. Eh bien, du coup, il y avait les journaux. Et les gens se passionnaient absolument pour toutes ces histoires qui étaient racontées dans les journaux sous forme de feuilleton. Eh bien oui. Alors là, il s'agit de Rodolphe de Sombreuil. Rodolphe de Sombreuil, c'est un marquis, le marquis de Sombreuil. C'est Jean Marais, bien sûr, qui mène une vie dorée avec sa maîtresse Irène. Il est la cause d'un accident dont il ne soupçonnait pas la gravité. C'est-à-dire qu'avec son... Avec le comment ça... Mince, je cherche le nom, l'époque, il se promenait en... Calèche? Non, c'est pas la calèche, c'est...
Oui, si, si, la calèche.
Oui, voilà. Donc, il renverse, en fait, il allait très vite parce qu'il était en train de faire une course avec d'autres des amis à lui. Il faisait la course à celui qui arriverait le plus vite au lieu qui s'était... au lieu de rendez-vous, quoi, voilà. Donc, avec sa calèche, il renverse un ouvrier qui en meurt quelques jours après. Voilà. Donc il ne soupçonnait pas la gravité de cet accident, mais pour la suite surtout. Alors il apprend qu'il avait une épouse et une fille. Il veut donc aider la fille de sa victime, mais celle-ci est enlevée par une affreuse mégère. En fait, la maman, elle meurt quelque temps après son époux, et la jeune fille se retrouve toute seule. Et elle est enlevée donc par cette affreuse femme. Aidé d'un ancien forçat, le marquis de Sombreuil va tout essayer pour libérer la jeune fille. Mais Irène, sa maîtresse jalouse, va organiser une odieuse machination. Quel dommage, parce que Irène, la maîtresse jalouse, c'est Dany Robin. Pour cette fois, elle a un rôle un petit peu antipathique, Dany Robin, ce qui était quand même pas courant pour elle à l'époque, mais là, oui. Et la jeune fille qui a tant besoin d'aide, c'est une actrice britannique, en fait, hein, qui a été choisie dans ce film, qui s'appelle Jill Hayworth. Elle est décédée, d'ailleurs, en 2011. Elle avait 65 ans. Elle a surtout... En fait, elle a très peu tourné, cette actrice, en France. On lui connaît 3 films français. Donc, Les Mystères de Paris, et puis en 62 également, Ton ombre et la mienne, un film d'André Michel, et en 63, un film de Michel Deville, à cause d'une femme. Voilà, on lui connaît ces 3 films français. Sinon, elle a toujours tourné chez elle, là-bas, en Angleterre, et... Voilà, on ne l'a plus revue en France. Et elle est décédée quand même relativement jeune. Et puis, on a dans les rôles, alors, sympathiques, on a Pierre Mondy, on a Georges Chamara, on a Noël Roquevert, et Jean Le Poulain dans les rôles de méchance. Hein, Jean Le Poulain. On a Madeleine Barbulé, on a Robert Dalban, on a Paulette Dubost. Eh oui. C'est vraiment, c'est un joli, joli, joli casting. C'est un film qui se suit vraiment comme ça. On suit Jean Marais sans problème, d'un bout à l'autre, avec son ami Pierre Mondy, qui va lui donner justement un coup de main, celui dont on parlait, qui va l'aider. Voilà. C'est un ancien forçat, qui est très sympathique, qui va lui donner un bon coup de main pour sauver tout le monde là-dedans. Voilà, Les Mystères de Paris. Alors Raymond Pellegrin, là-dedans, il est dedans. Je sais pas, j'avais peut-être pas cité Raymond Pellegrin. Il a le rôle du méchant aussi, hein, avec Dany Robin et Jean Le Poulain. Ah là là. Mais c'est très chouette, quoi. C'est enlevé, vraiment. C'est vraiment du beau travail d'André Humbel, encore une fois. Voilà. Et puis... Où va-t-on ensuite ?
Et puis on va terminer pour aujourd'hui avec le film de 1963, Scaramouche.
Scaramouche, mais oui, Scaramouche, en 1963. Ah, Scaramouche. Ouh, c'est un très très beau film également, Scaramouche. Alors, il est réalisé par un réalisateur, scénariste, producteur espagnol, Antonio Isasi Isasmendi, qui est décédé à 90 ans en 2017. C'est assez récent. Il était écrivain également. Lui, il a réalisé entre 1963 et 1986 tous ses films. Donc c'est un film en fait franco-espagnol-italien. Voilà, c'est un film d'aventure qui dure 1h38. Alors Antonio Isasmendi, il a réalisé L'homme d'Istanbul en 1965, des films d'aventure beaucoup, hein, des drames aussi, avec Horst Buchholz qu'on connaît, Silva Cochina dont on a cité le nom tout à l'heure pour le masque de fer, pour le masque de fer. Et puis on a en 68, il a réalisé Les Hommes de Las Vegas, un polar dramatique, avec Hank Sommer, Lee Jacob, Jack Palance et Gary Lockwood. Alors Jack Palance, pour vous situer, oh, souvenez-vous du Mépris, réalisé en 1963 par Jean-Luc Godard et Brigitte Bardot. Jack Palance, c'est celui qui l'emmène à la fin dans sa voiture décapotable, qui va avoir l'accident dans lequel elle meurt. Bah, ils meurent tous les deux d'ailleurs. Bah, c'est lui, c'est Jack Palance. Et puis en 72, il a réalisé un polar aussi. Il y a beaucoup d'action dans Meurtre au soleil avec Karl Malden et Claudine Auger. Eh oui, Claudine Auger, dont on a parlé déjà en 1986, il réalise, c'est son dernier film d'ailleurs, film espagnol, Tata Mia, avec des acteurs espagnols de l'époque, Emma Suarez, Paloma Gomez. Voilà, ça, c'est Antonio Isasmendi. Et là, alors là, il nous fait un Scaramouche, vraiment. C'est un personnage, en fait, c'est pas un personnage roman, hein, Scaramouche. Il a été créé par un acteur qui s'appelait Tiberio Fiorilli, 1608-1694, donc c'est ancien. C'est un acteur italien de la Commedia dell'arte. Il était directeur de la troupe des comédiens italiens à l'époque. Et il a créé ce personnage de Scaramouche, en fait. C'est assez... assez étonnant, cette histoire de Scaramouche. C'est l'histoire de Robert Lafleur, qui dirige une troupe de comédiens dans la plus pure tradition de la Commedia dell'arte, où son interprétation de Scaramouche enchante les foules. Quand il ne délaisse pas les tréteaux pour courir d'une maîtresse à l'autre... Peu perturbé par la rumeur qui en ferait le fruit des amours ancillaires d'un important seigneur, il se partage entre Suzanne, patronne d'une taverne de charme, et Madame de Popignan, par ailleurs maîtresse du roi et du marquis de la Tour. Le retour de Louisiane, du marquis de Souchil et sa charmante filleule sortie droit du couvent vont changer tout ça. Ouh, c'est un sacré embroglio, hein, sacrée histoire là. En fait, c'est un film de cap et d'épée, mais qui est plein d'entrain. Il y a c'est vraiment plein de panache. Hein. Il y a des duels, des poursuites. Voilà, tous les coups de théâtre sont permis. Et cette fois, on n'a pas Jean Marais dans le rôle principal, on a Gérard Barret. On l'a déjà nommé là deux trois fois. Gérard Barret qui devient incontournable à partir de là, d'ailleurs, dans les films de cap et d'épée, dans les polars aussi d'ailleurs. Et donc, il campe ce personnage à Rabat avec beaucoup d'humour, avec de l'énergie et une bonne humeur inépuisable, un Scaramouche de rêve, séduisant tour à tour des marquises poudrées et des servantes aguichantes. Très, très, ah oui, très, très joli film. Donc, on a, alors dans les acteurs, pardon, on a Michel Girardon, Gérard Barret. Michel Girardon, elle était très connue à ce moment-là, hein. Les années 60, très très célèbres. Donc Gérard Barret, on l'a dit. Et alors une actrice extraordinaire, là, qui était une grosse vedette italienne des années 50-70 d'ailleurs, c'est Gianna Maria Canale, grande actrice magnifique, d'une grande beauté. Et on a Alberto de Mendoza également, qui joue le vilain. Dans ce film-là, ouais, il n'est pas très sympathique. Voilà, dans le film en tout cas. Voilà, c'est quand même assez... un très très beau film, un beau Scaramouche. Pareil, il y a eu plein de Scaramouches. Moi, franchement, mes chéris, c'est mon préféré. Bah oui, voilà. Eh bien, on a terminé pour aujourd'hui. Oh, attention, j'ai l'impression de m'être battue à l'épée.
Ah, dis oui, donc,
j'ai tellement vécu les films. Damien, j'ai mal partout de m'être battue comme ça. Voilà. Je plaisante, évidemment.
Donc, voilà une idée aux auditeurs donc, pour regarder des films de cap et d'épée. Et malheureusement, ce style cinématographique s'est un peu perdu au fur et à mesure
oui,
du temps, parce que ça coûte quand même très cher de faire des films en costume, donc c'est un peu compliqué.
Ah oui, justement, c'est ce que tu viens de dire là. Dans tous ces films que je viens de citer, les costumes sont magnifiques. Magnifiques. Tout est soigné dans ces films, c'est pour ça que je les aime beaucoup, moi, que je les ai choisis et que je les aime énormément, effectivement, parce que tout est soigné dans ces films. Ainsi que les combats d'ailleurs, les combats à l'épée qui sont vraiment très très bien exécutés. Ah ouais.
Très bien.
C'est important aussi ça.
Eh bien merci beaucoup Anne pour toutes ces propositions de films. Et on
oui,
se
ben,
retrouve.
Je me suis un peu emballée, hein, mais comme j'ai un petit peu la fièvre, excusez-moi, si de temps en temps je me suis heurtée à des mots ou je ne sais pas trop, j'espère que pas trop souvent, ben, sur Radio Entre deux Mers, même si on a une angine, eh ben, ça fait rien. On a envie de vous parler quand même, parce qu'on vous aime, nous. Et on a quand même envie de vous faire partager nos idées, enfin tout ce qu'on a, quoi, voilà. N'est-ce pas, Damien ?
Et oui, tout à fait. Et on vous retrouve du coup le mercredi prochain à 11h pour une nouvelle conversation autour du cinéma.
Oui. Ben, on se retrouve, Damien. Passe une bonne semaine. Mes chéris aussi, passe une bonne semaine. Ben, il va falloir en profiter parce qu'on a le soleil dans les médias. Est-ce que ça va durer ? Je ne sais pas. Mais la pluie a cessé pour le moment. Je pense qu'elle veut... Enfin, d'après la météo, ça va cesser quelques jours. Profitons-en, soyez heureux. Soyez heureux. Évidemment, faites attention, prenez soin de vous, de votre entourage. On le sait, mais soyez heureux quand même. Carpe diem, vivez le jour présent. Voilà. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de passer une bonne journée. En tout cas, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Dieu, tu sais.